La semaine dernière, nous nous trouvions à Béthanie, la maison de la miséricorde, pour vivre la réanimation de Lazare. Jésus avait pris le risque de remonter en Judée. Et aujourd'hui, nous le retrouvons à Béthanie, où lui et ses disciples s'arrêtent pour un repas dans la maison de ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Si l'évangéliste Jean était le seul à mentionner le récit de la réanimation de Lazare, les autres évangélistes relatent aussi un dîner à Béthanie. Mais c'est chez un pharisien dénommé Simon. La présence de Lazare et de Marthe est passée sous silence. Mais ils insistent sur la présence d'une femme pécheresse, Marie de Magdala, et Judas, l'un des douze. Plusieurs exégètes ont fait le lien entre Marie de Magdala et Marie Madeleine de Béthanie, et ils y voient la même personne. Marie et Judas ont été touchés par la personne du Christ, et ils ont décidé l'un et l'autre de le suivre et de se dévouer tout entier pour lui. Marie a été touchée plus par ses sentiments, ses sensations, son intuition, et Judas plus par sa raison. Pour chacun, le Christ fut une rencontre providentielle. Pour Marie, elle qui était vue comme une femme pécheresse, une femme perdue, une prostituée, elle aperçut en Jésus l'amour vrai, l'amour qui se donne, qui n'est pas un amour commercial. Ce fut un électrochoc pour elle, et elle le suit, et en fait le maître de sa vie. Pour Judas, Jésus était celui qui allait délivrer Israël du joug de l'oppresseur romain. Dans sa tête, Jésus venait rencontrer son idéal de justice, de libération d'Israël, et il s'était mis concrètement à son service. Il faisait partie, dirait-on aujourd'hui, de la garde rapprochée, du kern cabinet de Jésus. Il s'occupait des finances, le nerf de la guerre, pour chasser les Romains. Jean le présente comme un voleur, bien que certaines traductions le présentent aussi comme le gestionnaire. Tenant la bourse commune, il se chargeait de tout ce qu'on y mettait, ou il portait la bourse du groupe, tout ce qu'on y mettait passait par ses mains. Judas était de plus en plus tiraillé. Il voit que Jésus prend soin des faibles, des affligés, qu'il guérit des malades, qu'il réanime même ceux qui sont morts, et en cela Jésus rencontre son idéal de justice. Mais l'occupant romain est toujours là, et Jésus ne donne pas l'impression de vouloir le chasser. Les événements de Béthanie, la réanimation de Lazare, et aujourd'hui le banquet, sont la goutte qui fait déborder le vase pour les prêtres et pour Judas. Les prêtres dirent : ne voyez-vous pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'une seule personne meure pour le peuple et qu'ainsi l'ensemble de notre peuple ne soit pas détruit. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de faire mourir Jésus. Pour Judas, le geste de Marie qui répand un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus est inacceptable. En tant que gestionnaire, c'est du gaspillage. Il montre son irritation. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour 300 deniers qui auraient été donnés aux pauvres? C'est la raison du gestionnaire qui parle. Marie a l'intuition que quelque chose de grave va arriver à Jésus. À travers le parfum qu'elle répand sur ses pieds, c'est elle tout entière qui se donne à lui. Elle veut l'entourer de son amour, lui dire au revoir. L'axe de sa vie, c'est le Christ. Elle est au-delà des principes, des conventions du monde. Le Christ est devenu le parfum le plus précieux pour elle. À travers ce parfum qu'elle répand sur les pieds de Jésus, elle se donne à son Seigneur. C'est cette folie-là que, comme Marie, nous sommes invités à vivre. Chaque fois que nous avons des gestes d'amour, nous répandons un parfum. et cela se sent. C'est une atmosphère de paix, de joie, d'amour que nous créons. À la réflexion de Judas sur le parfum répandu, Jésus va répondre « Laisse-la, elle a fait cela pour le jour de ma sépulture, car des pauvres vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Jésus, par ses paroles, va briser quelque chose en Judas. Judas voit chaque jour les pauvres, les souffrants, les gens qui appellent au secours et qui vont vers Jésus. Mais il ne comprend plus Jésus. Ce n'est pas juste de gaspiller ce parfum et l'argent qu'on aurait pu en tirer pour soigner et aider cette population qui souffre. Son idéal de justice est bafoué et non entendu. Par ses paroles, le Christ essayait de réorienter son idéal de justice vers celui qui est la justice, qui est l'amour et la miséricorde. Il l'invite à se recentrer sur l'unique nécessaire, comme il l'avait fait avec Marthe qui se plaignait que sa sœur restait assise à contempler le Maître et à l'écouter. « C'est elle qui choisit la meilleure part », avait dit Jésus. Il invite ainsi Judas à écouter en lui, à sentir la présence de celui qui est la vie, à quitter son rêve d'être le justicier, le bras armé de Dieu. Ce n'est qu'en étant d'abord à l'écoute de Dieu, en se laissant travailler dans le cœur, que nous participons à construire le royaume de Dieu. Judas est déçu de Jésus, son idole, et son amitié pour lui va se changer en haine. Il ouvre son cœur au menteur, à Satan, et cela va se concrétiser à la dernière scène. Jean nous dit, après que Judas eut pris le morceau de pain, Satan entra en lui. Judas sortit, et il était nuit. Sa vie entre ainsi dans les ténèbres. On peut dire qu'il naît à l'enfer. Jésus dira aussi, « Le Fils de l'homme s'en va, il est vrai, selon ce qui a été écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour lui que cet homme-là ne fût pas né. » Il y a deux façons de comprendre ces paroles, soit comme une condamnation, comme une malédiction de Jésus sur Judas. Mais cela va à l'encontre d'un Dieu d'amour qui ne condamne pas. Si Paul dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas », soit, ça c'est ce que dit saint Paul, la deuxième façon de comprendre c'est « soit comme un constat devant la détresse d'un homme ». Jésus voit que Judas est malheureux, qu'il est rempli de tristesse et de haine, alors qu'il avait pour lui l'amitié et l'amour inconditionnel de Dieu. Cet homme-là, c'est celui que Judas a laissé naître en lui en se coupant de Dieu. Et le Christ exprime ici une parole de compassion vis-à-vis de Judas. Ensuite vient l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est la première fois que Jésus se laisse acclamer. Jusqu'ici, il avait toujours refusé de se laisser voir, de se laisser acclamer comme roi. Il le fait comme annoncé dans les Écritures, c'est la lecture de Zacharie. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vint à toi, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » La foule l'acclame et chante « Hosanna », c'est-à-dire « Seigneur, sauve-nous » ou « Donne-nous le salut ». C'est le rôle d'un roi de prendre soin de son peuple. La réanimation de Lazare y est pour beaucoup dans la liesse populaire. Que peut encore l'occupant romain avec le Christ? De plus, il apparaît ici sur le petit d'une ânesse, comme annoncé par le prophète Zacharie, qui dit aussi « Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble. » Ce n'est pas un monarque arrogant, ambitieux, comme on en rencontre tellement aujourd'hui. Par les cris de la foule, fils de David, comme dans saint Matthieu, et roi d'Israël, c'est bien le Messie que la foule acclame, le Sauveur du peuple. Cette foule, c'est nous. Ce qui nous habite en ce moment, c'est la joie, l'enthousiasme, la liberté. Le Christ entre dans ma Jérusalem. Mais ne l'acclamons pas comme un sauveur extérieur qui vient mettre à mal les ennemis extérieurs. Ce n'est pas l'extérieur que le Christ vient combattre, mais nos ennemis intérieurs, nos passions qui nous assaillent. Le cœur de l'homme, voilà ce qu'il vient conquérir. Et sa seule arme, sa seule puissance, c'est son amour. Le Christ veut vivre en nous. L'éternité, ce n'est pas un concept humain et philosophique, mais c'est une présence. C'est quelqu'un que nous sommes invités à accueillir, à acclamer, à bénir, à louer, à laisser devenir le roi, le maître de notre vie. Alors, pendant cette semaine sainte, nous allons accompagner le Christ depuis la dernière scène jusqu'à sa résurrection. Nous allons répondre à son amour et accueillir dans la joie sa résurrection. Je ne peux que vous inviter chaleureusement à venir vivre cette expérience du Triduum Pascal, cet espace de 3 jours qui nous parle de l'amour infini de Dieu et de sa résurrection. C'est le centre de gravité de l'année liturgique. Alors à Dieu soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.